Accès libre. Bonjour tout le monde, bienvenue à Accès Libre cette semaine et les semaines à venir jusqu'à la fin de la saison. Donc, je suis accompagnée de mon mentor Luc Fortin qui reste à la barre de l'émission. Merci Luc, ça va bien?
Ça va très bien, j'aime beaucoup ça, faire ça, et c'est plaisant de le faire avec toi.
Super. Alors aujourd'hui, on s'intéresse à plein de sujets très intéressants comme d'habitude, notamment l'accessibilité des musées montréalais, un nouveau concept d'inclusion, nouveau on va le voir, le concept d'extrability, c'est un français qui nous en parle. Femme non-voyante a créé sa chaîne YouTube et on va aussi parler de téléphone cellulaire, accessible ou pas, oui, non, pourquoi, comment, on va voir ça. En table ronde, nous parlerons d'une campagne nationale sous l'impulsion de Mémo Québec.
Ça m'intéresse.
Qui va faire du bruit, on l'espère.
On l'espère.
D'ailleurs, la question de la semaine, en lien avec cette campagne, comment s'assurer de l'accessibilité des commerces de proximité? Est-ce que l'on devrait les contraindre ou leur offrir des incitatifs financiers? Alors n'hésitez pas à nous écrire sur nos réseaux sociaux, Moclic, Canal M. Et tout de suite, on s'entretient avec un expert en accessibilité. On a pris comme prétexte la journée des musées montréalais qui avait lieu hier pour en parler. Tout ça sur Canal M, la radio de Vuzévoix. Alors bonjour Jonathan Gagné.
Oui, bonjour.
Bonjour, vous êtes conseiller en accessibilité chez Kerhoul. Vous avez fait vos devoirs, donc Luc Fortin vous a appelé pour vous demander un petit peu de regarder l'accessibilité des musées.
Oui.
Donc à Montréal, en lien avec cette journée, je crois que 31 institutions muséales étaient gratuites hier.
C'est exact.
Donc en ville.
32e édition de la journée, 31 musées disponibles quand
exact,
même.
Exact. Ouais.
Gros événement.
Et donc, parmi ces musées, combien sont accessibles? Qu'entend-on par accessibilité? Je vous donne la parole, cher Luc.
Bon, en fait, Jonathan, tu as le droit de dire que tu ne sais pas combien de musées sont accessibles.
Bien, en fait, sur les 31 musées là, qui participaient à l'événement au courant de la journée d'hier, chez Kerhoul, nous en avons évalué 19 qui ont été certifiés. Ça peut être partiellement accessible ou accessible, et aussi là, de certains établissements qui ont des services pour les gens qui ont une déficience visuelle ou auditive.
Donc, est-ce que ça veut dire que les autres ne sont pas accessibles ou pas nécessairement?
Il y en a certains qui ne le sont pas dans la liste dans les 31 participants, mais plusieurs n'ont jamais fait l'objet d'une évaluation. Donc, c'est vraiment... on peut pas avoir une vue globale de l'accessibilité des musées à Montréal. On a dans le fond seulement la réalité de ceux en fait qui ont été évalués dans le cadre de la journée des musées montréalais. Par contre, nous en avons évalué d'autres, des établissements muséaux ou des centres d'interprétation qui ne participaient pas à la journée justement au courant de la journée d'hier.
Parlons des règles. Quelles sont les règles entourant l'accessibilité au niveau du musée?
Actuellement, il y a des normes muséales en termes d'accessibilité. C'est pas quelque chose qui est en vigueur. Par contre, il y a de la réglementation qui existe, notamment pour que ces établissements-là rendent leur lieu accessible. Tous les établissements touristiques, pas touristiques, tous les établissements muséaux doivent quand même répondre aux normes qui font partie du Code de construction du Québec avec les normes de conception sans obstacle. Les seuls qui pourraient être exemptés de ça, ce seraient les petits établissements de moins de 300 mètres carrés. C'est sûr que chez Kerhoul, notre objectif, en fait, c'est d'englober tous les établissements, de les sensibiliser justement à la cause des personnes ayant des limitations fonctionnelles.
Comment vous faites pour les sensibiliser?
En fait, il y a des ententes qui sont, je vais tout de suite passer dans le sujet, en fait, c'est que Kerhoul en septembre 2017, on a eu justement une entente on a eu une entente de partenariat avec la Société du réseau des économusés. Donc, en gros, l'objectif, c'est de pouvoir mettre en valeur le travail des artisans qui justement exercent leur métier souvent avec passion, puis qui permet aux gens aussi d'avoir une idée de comment sont fabriqués justement.
C'est ça, visiter une laiterie, visiter une fromagerie.
Exactement.
Ouais. Aller au-delà de juste consommer le produit, là.
Exactement, ou juste de l'observer. Donc, les gens peuvent comprendre aussi la façon qui peut être fabriquée. Donc, en fait, la société, justement, du réseau des économisés, l'objectif, c'est justement d'informer ses membres sur, justement, les bonnes pratiques en matière d'accueil des personnes handicapées. Et puis ça, c'est essentiel, justement, pour les économiser, parce que c'est le point central, justement, de leur existence. Puis, je vous dirais aussi, au niveau des bonnes pratiques, au niveau de l'aménagement des lieux, comment, justement, rendre leurs établissements accessibles, c'est aussi... quelque chose là, qui l'information que la société va pouvoir diffuser à ses membres pour que ces membres-là puissent nous contacter par la suite.
Mais là, rassure-moi, Jonathan, ça, oui. Je comprends parce que c'est le privé, OK? Donc,
oui,
on les sensibilise, on espère que ceux-ci vont vouloir utiliser des nouvelles pratiques, des bonnes pratiques, mais j'entendais tantôt qu'il n'y avait pas nécessairement de règles établies, pourtant... Moi, mes taxes, là, ils subventionnent tellement de musées, je peux pas croire qu'il n'y a pas d'obligation pour que les musées deviennent accessibles.
Il y a quand même 3 musées au Québec qui sont les musées gouvernementaux qui, eux, doivent soumettre justement un plan d'action auprès de l'Office des personnes handicapées du Québec pour justement rendre leurs établissements le plus accessible possible, offrir aussi des services. On sait là que au niveau, entre autres, de la nouvelle technologie, ça change beaucoup. Il y a beaucoup d'applications maintenant qui existent pour aider les personnes atteintes de déficience visuelle ou auditive. Donc, c'est justement d'intégrer ces technologies-là.
Mais 3 sur 3 sur... moi j'avais plein de bonne volonté aujourd'hui, je voulais rester calme, puis déjà ça part mal.
Mais c'est
au contraire, je pense qu'il y a déjà, si on regarde à Montréal, il y a quand même 48 établissements qui, je pourrais même au niveau du Québec, il y a 214 établissements qui ont fait l'objet d'une évaluation, qui ont été certifiés en fonction des services qu'ils offrent.
Sur combien, tu dis, 214?
J'ai pas le chiffre au total de tous les établissements muséaux au Québec.
Parce qu'en fait,
vous dire que, oui,
214, c'est quand même bon,
c'est quand même très bien.
Ouais.
Puis c'est un travail qui est fait en continu aussi. Là, c'est sûr que de rendre un établissement accessible,
ça peut aller qu'en s'améliorant, en tout cas, on espère.
En terminant, Jonathan, parce que je veux vraiment que tu nous parles de ça, les musées, c'est pas vous qui les approchez. C'est pour ça qu'on sait pas qui est accessible, qui l'est pas. On ne sait que ceux qui vous appellent à Kéroul et qui disent, pouvez-vous venir soit nous évaluer ou nous dire ce qu'on peut faire pour améliorer notre accessibilité. C'est comme ça que ça fonctionne.
Ça fonctionne. Il y en a des établissements qui nous appellent pour justement qu'on les accompagne dans les travaux qu'ils veulent effectuer ou qu'ils veulent se faire évaluer. Mais Kéroul a aussi fait une entente de partenariat en décembre 2017 avec la Société des musées du Québec, justement pour encourager les membres à entreprendre des démarches pour améliorer l'accessibilité. Puis aussi, ça passe par l'information qui est diffusée. Donc, la Société des musées a également ajouté des informations supplémentaires sur leur site Internet à propos de l'accessibilité. Donc, l'objectif de cette entente-là, aussi qui a été conclue entre Kéroul et la Société des musées, c'est que les établissements muséaux puissent en apprendre davantage sur les bonnes pratiques, comme je vous disais tantôt. Puis aussi, il y a des aides financières qui existent pour les aider justement à améliorer l'accessibilité.
Je te remercie beaucoup. C'est tout le temps qu'on a, malheureusement. Anne-Laure a reçu un français la semaine dernière. L'entrevue est déjà canée, alors on est obligé de... te laisser.
C'est excellent. Mais,
merci beaucoup, Jonathan Gagné.
Ça m'a fait plaisir.
On va vous réinviter.
Une belle journée.
Gagné, G-N-I-E-R. J'aime ça, Jonathan, qui est conseiller en accessibilité du côté de Kéroul. Après Manu Chao, justement, on écoute cet entretien où il sera question d'extrabilité entre Anne-Laure et un de ses anciens compatriotes, elle qui est maintenant citoyenne canadienne.
Parfois j'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Parfois j'aimerais mourir tellement y a plus d'espoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour.
Tout de suite, je m'entretiens avec Marc Offrand. Marc Offrand est responsable des activités internationales de l'association Valentin Ahuy à Paris, dans le 7e arrondissement. C'est une association qui fait un petit peu la même chose que Vues et Voix, n'est-ce pas, Monsieur Offrand ?
Pour partie, oui.
Oui,
nous enregistrons des livres audio en voix humaine. On en produit à peu près 1200 par an.
C'est ça. Vous êtes venu donc sur notre continent pour participer à la réunion annuelle de l'Union mondiale des aveugles.
Oui, tout à fait. Je viens là dans le cadre de la commission mondiale du Braille, dont je suis membre. Voilà.
D'accord. Est-ce que quel rôle vous allez jouer alors dans cette réunion ?
Il y a deux problèmes importants à discuter et à essayer de trouver des solutions. C'est d'une part le déclin de l'usage du braille, hein, qui est quand même un peu mondial, et puis aussi de voir ce qu'on pourrait faire dans le braille musical, la transcription des partitions musicales en braille.
D'accord, et vous êtes combien à vous retrouver donc, dans ce cadre-là ?
Je n'en ai aucune idée.
D'accord, bon, bah, écoutez, vous nous raconterez ça peut-être après.
Oui.
L'association Valentin Ahuy, vous y travaillez en fait à titre de bénévole. Vous êtes membre du CA, vous êtes responsable des activités internationales de l'association. Qu'est-ce que c'est ? En quoi consiste votre travail ?
Alors, effectivement, j'ai 67 ans, je suis retraité. Dans ma vie professionnelle, j'étais statisticien au service statistique national français. Et dans le cadre de l'AVH, donc, je m'occupe de l'international. Alors, quelle est la finalité de tout ça ? D'une part, on s'aperçoit quand même que les problèmes des aveugles sont à peu près les mêmes partout, hein, que je résumerai en disant on n'arrive pas bien à voir. Hein. Donc, les solutions, elles sont à peu près applicables partout, un peu avec des modalités différentes. Ce que j'ai observé, c'est que toutes les associations sont en général dans le monde, sont repliées sur leurs frontières.
Hein. Oui.
N'imagine pas qu'il y a des gens qui ont les mêmes problèmes qu'eux ailleurs. Et donc, mon idée, c'est de décloisonner tout ça, que les gens se connaissent.
Hein. D'accord. Ça,
parce que ce que j'observe, c'est qu'on est un peu tous en train de réinventer la roue, chacun dans son coin. Quoi. Donc, si on peut déjà se connaître, partager les expériences, bah, ça sera très bien. Ce que j'observe aussi, c'est que tous nos équipements, tous nos matériels spécialisés, c'est les mêmes. Hein. Il n'y a qu'un seul marché mondial pour les produits adaptés aux personnes déficientes visuelles. Il n'y a pas de marché national, il n'y a pas de marché français, il n'y a pas de marché allemand. On a tous les mêmes matériels, on les connaît tous. Hein. Les cannes blanches canadiennes, on les a en vente à l'association Valentin Huy, ce n'est pas par hasard. Hein. Et mon objectif, c'est que les opérationnels de l'AVH connaissent leurs homologues, connaissent aussi la qualité de leurs homologues, hein. Il y a des bons, il y a des mauvais, hein. Et connaissent et intègrent, je dirais, la dimension internationale dans leur activité quotidienne. C'est-à-dire ils n'ont plus un regard de franco-français, mais un regard sur l'activité au service des aveugles en général.
Oui. Et cette dimension internationale, vous l'avez bien intégrée. Vous voyagez énormément, vous rencontrez beaucoup de monde. En 2013, vous étiez en Lettonie pour une conférence. Vous avez rencontré un Russe qui avait perdu la vue, non pas de naissance comme vous, mais à la suite d'un accident, qui a créé une association, le White Can, en fait, la canne blanche en français, qui a développé un concept d'extrability que vous avez aussi développé avec lui. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Oui, bien sûr. Alors, ce qu'on constate, c'est que quand on a un handicap ou quand on a un vrai problème, on essaie de s'en sortir, hein, quand on n'est pas trop en déprime. On essaie de s'en sortir, on développe des façons d'appréhender alternatives et au bout d'un moment, on acquiert une vraie compétence. Et cette compétence, on peut la mettre au service de la société. Alors, je vais vous prendre un exemple qui est presque un cliché, mais qui a du fond. C'est, il y a beaucoup d'aveugles qui sont masseurs kinésithérapeutes.
Oui.
Ils sont souvent bons, ce n'est pas les seuls, il y a beaucoup de voyants qui sont très bons dans le métier. Mais les aveugles ont quand même, en tout cas, ils sont souvent ce métier. Ben, ce n'est pas par hasard. Simplement, en étant aveugle, on a dû utiliser ses mains, on a dû écouter ses sens, on a dû écouter ses mains. Hein? Donc on sait interpréter, ça devient consubstantiel, on a appris à interpréter ce que nous dit notre toucher. Eh bien, quand on a cette qualité dans ses mains, eh bien, quand on travaille sur un corps humain, on comprend toutes ses réactions, toute sa musculature, ça devient instantané. Donc on est souvent bon. Voilà, donc ça, c'est ça l'extrabilité qui est développée, c'est pour résoudre ton problème, tu t'es auto-formé à avoir une bonne pratique de tes mains.
D'accord.
C'est ça l'extrabilité. Évidemment, on peut mettre ça au service de la société si on est un bon kinésithérapeute.
Tout ça dans un concept d'inclusion?
Tout à fait. Tout à fait. Parce que là aussi, j'ai une vision aussi avec nos amis russes très, très précise. L'inclusion, tant que ça consiste à dire j'ai le droit à ceci, j'ai le droit à l'accessibilité, j'ai le droit à des livres audio, c'est très bien, il faut le faire. Mais si ça n'est que ça, on reçoit de la société, mais on ne donne rien en échange. Et pour moi, la vraie inclusion, c'est au moment où les personnes handicapées peuvent apporter quelque chose à la société et que le reste de la société s'en aperçoit. Et là, le regard devient complètement différent. Hein. Si on dit, bon, cette personne, elle est aveugle, hein, bah oui, bah, y en a d'autres qui sont orphelins, il y en a d'autres hein, qui ont eu des maladies. Hein. Bon, mais n'empêche que ce n'est pas une tare. C'est une personne qui peut apporter quelque chose.
La société aussi doit laisser la place à ces personnes pour leur apport.
Bah, c'est-à-dire que si on apporte quelque chose, ça vient tout seul.
Ok.
Hein? Il y a beaucoup de musiciens aveugles qui ont bien réussi. C'est pas non plus tout à fait par hasard.
Et comment faire rayonner ce concept, en quelques mots?
Alors ça, c'est plus difficile.
Oui, hein, c'est ça.
C'est plus difficile.
En en parlant.
Alors, oui, non, c'est plus difficile. On connaît bon, l'exemple des musiciens, bon, l'exemple des kinésithérapeutes, mais il y en a certainement beaucoup d'autres. Et pour d'autres handicaps ailleurs, par exemple, les personnes qui sont autistes, ben, souvent, ils ont une façon de voir les choses instantanément.
D'accord. Hein,
mais... de voir l'image instantanément. Alors, peut-être pas tous, mais c'est souvent le cas.
Okay.
Eh bien, ces personnes-là sont utilisées dans l'armée israélienne pour analyser les photos aériennes.
C'est vrai, c'est vrai. Donc, ce que je retiens, c'est vraiment que les personnes en situation de handicap et les personnes non-voyantes notamment doivent faire valoir leurs forces, leurs compétences et les offrir à la société. Je vous remercie beaucoup, Marc Offrand. Malheureusement, c'est le temps qu'on avait. Je le rappelle, vous êtes responsable des activités internationales de l'association Valentin Haoui à Paris, en France. Et vous venez pour participer à la réunion annuelle de l'Union mondiale des aveugles la semaine prochaine à Ottawa. On s'en donnera des nouvelles. Merci.
Ben, merci de votre accueil. Et c'était une très bonne surprise.
Vous écoutez Accès Libre.
Question de la semaine. Comment s'assurer de l'accessibilité des commerces de proximité? Est-ce qu'on devrait les contraindre ou leur offrir des incitatifs financiers?
Et nous avons une grande habituée de Vues et Voix au téléphone, Claudia Nigrelli. Vous êtes massothérapeute et vous faites des conférences sur la motivation. Vous avez également une chaîne YouTube. Bonjour Claudia.
Ben bonsoir à vous deux.
Salut Claudia. Quelle grandeur as-tu? Toi qui es une grande habituée, semble-t-il.
Quelle grandeur, ouais. À la radio.
Non. Dans ta vie, là, sur tes talons ordinaires.
Sur mes talons ordinaires, j'ai 5 pieds 8, mais en fait, une grande écoute. J'écoute beaucoup Canal M, on va être honnête, et je suis récemment co-animatrice avec Arlette, donc au 5 à 7 avec Arlette.
Les lundis.
Les lundis soir.
Ouais. Claudia, parle-moi un petit peu de cette idée. Pourquoi? Bon, je sais que c'est très tendance chez les jeunes. Tu sais quoi, tu avais besoin de te faire remarquer, tu manquais d'attention. Pourquoi tu voulais faire du YouTube?
Non, pas du tout. J'ai commencé YouTube, en fait, pour trois raisons. Donc, la première, évidemment, en ayant un handicap visuel, je voulais informer les personnes sur certains préjugés qu'ils ont sur les gens qui ont des noms, un problème d'handicap visuel. Mmh. Donc, on va être honnête. Donc, par exemple, pas tous les gens non-voyants portent des lunettes de soleil, pas tous les gens non-voyants ont des chiens guides. Et aussi de les informer que, tout à fait, j'ai une vie normale. Donc, comme tout le monde, je fais des sorties, donc j'ai une vie, à part avoir un handicap visuel.
Ouais.
Deuxièmement, c'était tout simplement parce que j'aime avoir du plaisir dans la vie. Donc, tout à fait, en montrant mes projets et ma vie quotidienne, mais d'avoir toujours du plaisir.
Ça se sent lorsqu'on regarde les vidéos. Là, on sent le plaisir que tu as avec ta caméra. Ta caméra
oui.
Woman, le sourire est constamment présent.
Ah, super, merci de l'avoir remarqué. Puis c'est ça, la troisième, bien, c'est d'inspirer. Hein, donc, on veut informer, on a du plaisir, mais tout en inspirant les gens à vraiment poursuivre leurs rêves, leurs ambitions. T'sais, on parle évidemment à Canal M, donc c'est des personnes, on est au courant, qui ont soit des handicaps, des limitations fonctionnelles, et aussi monsieur et madame tout le monde qui écoutent. Donc vraiment pour poursuivre toute question dans la tête de si on perd, ben tout simplement de sauter dans la vie, de faire qu'est-ce qu'ils aiment.
Et Claudia, est-ce qu'il y a des gens qui te répondent ou qui commentent sur cet objectif-là? Est-ce que tu le remplis, penses-tu?
Juste reformule la question.
Est-ce que des auditeurs t'écrivent en te disant oh, « vous êtes inspirante » ou « grâce à vous », etc. Vous êtes
oui,
un retour avec
fait,
tes...
Et... Oui, oui ben, c'est ça qui me fait continuer, hein, c'est certain. Moi, je le fais, évidemment, quand j'ai la caméra en avant de moi, j'ai l'impression de parler à moi-même. Mais quand j'ai des gens qui commentent... C'est sûr que c'est ça qui me fait continuer parce que je réalise que ben, je parle pas à moi-même, je parle à des milliers de personnes qui m'écoutent au quotidien.
Je me suis demandé aussi si tu parlais aux personnes qui ont un handicap visuel parce que, j'ai pas nécessairement envie de mettre du mascara, mais j'ai pas compris comment... Si j'étais une fille, là, je suis pas sûr que j'aurais compris. Alors, je me suis demandé, est-ce qu'elle parle aux voyants ou elle veut aussi que la fille qui voit pas sache comment mettre du mascara?
Oui, ben là, vous parlez du vidéo, évidemment, que j'ai mis du mascara. Moi, à mon idée...
Toi, c'était complet. C'était assez.
Oui, Oui, moi, okay. Je pense que c'était quand même assez. Tu sais, quand que je parle, on met le doigt ouais. en dessous de l'œil. Tu sais, c'est certain que ça pourrait jamais être parfait. Hein, on entend, moi, même quand j'écoute des vidéos YouTube, parce que je suis aussi une visionneuse de vidéos, c'est certain que quand on a un handicap visuel, malheureusement, nous ne pouvons pas participer 100% aux vidéos. Donc, pour moi, j'essaie de... vraiment faire participer les deux personnes qui ont un handicap visuel ou qui en ont pas. Puis si on prend la majorité des personnes, la majorité ont pas d'handicap visuel. Ouais. Donc c'est malheureux aujourd'hui là, mais c'est
ça. As-tu vu ce que fait Molly Burke?
Oui, Molly Burke. Moi, j'adore Molly Burke. En fait, je m'inspire énormément.
Oui, un peu. Hein, c'est ça. C'est oui. un petit peu. C'est pour ça que je oui. me demandais. Bon, qu'est-ce que en même temps, tu sais, on veut faire une différence. Qu'est-ce que si je regarde Claudia, si je regarde Molly, quelle est la différence?
Bien, évidemment, Molly vit une vie complètement différente de la mienne. Donc, Molly est encore plus, en étant plus jeune que moi, est un peu plus dans le style. Bon, elle vit évidemment à Los Angeles.
Ouais, elle est à LA, toi, tu es à Anjou. Déjà,
ouais. c'est. C'est une différence, mais ouais. Rien n'empêche que les deux ont vu la même réalité. Donc, Molly Burke et moi, nous sommes les ambassadrices pour The Foundation Fighting Blindness. Là, on a quand même le même parcours de vie. Mm-hmm. Par contre, moi, je prends plus ma chaîne YouTube pour démontrer plus mon côté professionnel en étant conférencière. Molly Burke, en étant plus jeune, elle avait plus, j'imagine, avoir du plaisir... dans la vie. Rien n'empêche que moi aussi, j'aimerais
ouais, ouais,
ça,
ouais.
mais
ouais.
elle est plus dans le fun, tandis que moi, je suis plus rendue plus professionnelle dans mes vidéos que j'aime mettre sur YouTube.
D'autant plus que, comme tu dis, étant conférencière et étant distributrice de produits, ben, on veut quand même donner une belle image de ces produits-là. On veut montrer aux clients potentiels. J'ai une fière allure. Là.
Je suis conseillère indépendante Arbonne. Donc, c'est vraiment des produits haut de gamme qu'on parle. Donc, c'est sûr que moi, mon image, c'est certain, tu sais, comme tu viens de le dire, Luc, j'adore avoir du plaisir. Donc, rien n'empêche que mes vidéos ils ont le droit d'être drôles. C'est ma vie. Hein. Je suis pas mal drôle dans la vie.
Oui, le petit blooper à la fin, c'est sympathique également.
Ah, oh, merci. Oui, ouais. Puis c'est certain. Écoute, en ayant un handicap visuel, tu connais ma réalité, Luc, c'est certain que notre vie, c'est pas toujours le fun. Hein? On s'entend, on est différent que les autres, des gens partant. Donc, pourquoi pas, on dit en anglais, « embrace » qu'est-ce qu'on a. Donc, prendre qu'est-ce qu'on a et utiliser ouais. au positif.
Voilà. Toi, c'est pire que moi, t'es en couple. C'est encore plus difficile. Oh. Hey, merci, Claudia. Si je connais ta réalité de handicap visuel, toi, tu connais notre réalité à la radio. Le temps file. On te laisse.
Génial. Et je veux juste dire aux auditeurs de me suivre sur YouTube, Facebook. Ça va me faire plaisir de répondre aux questions et commentaires.
Claudia Nigrelli et nous, ben, on s'intéresse à ce Québec que l'on souhaite de plus en plus accessible après la pause.
Écoutez Accès Libre.
Je t'ai vu si souvent, le cœur au printemps. Je te trouve à l'envers, le cœur en hiver. Albatros, où sont tes ailes de géant? Je te vois perdre pied, déparler la raison au plancher, à traîner tes blouses, à errer dans le vent. La machine à aimer, on répare ça comment? La machine à aimer, on répare ça comment? Je t'ai vu si souvent, le cœur montgolfière, je te trouve lesté, poste nucléaire. Voilà mon ami bien brun que ballant. Elle devait être belle à la saison d'elle. Ça devait être grand pour te laisser si petit. Rêve et bras ballants. La machine à aimer, on répare ça comment? Tu me demandes. La machine à aimer, on répare ça comment? La machine à aimer, on répare ça comment?
me demande. La machine à aimer, on répare ça comment? Je voudrais tant te dire qu'il y a mieux que le temps, que des matins sans lumière, j'ai le médicament. J'ai le médicament. Je voudrais t'en savoir la fine mécanique de l'amour, la science oubliée des romances, de leur transe. Qu'on arrête enfin de s'en prendre plein la gueule. De s'en prendre plein la gueule. La machine à aimer, on répare ça comment? Tu me demandes. La machine à aimer, on répare ça comment?
Qu'on arrête enfin.
La machine à aimer, on répare ça comment?
Qu'on arrête enfin.
Tu me demandes. La machine à aimer, on répare ça comment?
Le sang prend plein la gueule.
La machine à aimer, on répare ça comment?
Qu'on arrête enfin.
Tu me demandes.
Tristan Malavoie sur Canal M et sur canalm.ca et sur TuneIn. J'ai découvert Canal M sur TuneIn cette fin de semaine et sur... C'est quoi, Radio Player? Canada Player, Jean-Sébastien? Player Canada? Radio Player Canada. Bon, faut juste mettre les mots dans... Mais c'est ça. Vous pouvez maintenant écouter Canal M, même quand vous sortez de chez vous. C'est quand même intéressant. Campagne pour un Québec accessible, lancée le 15 mai dernier. Ce que l'on souhaite, c'est l'accessibilité des commerces et des services de proximité. Pour en causer avec nous, Sarah Limoges de Mémo Québec, Florence Tifou du Mouvement Phase et Simon April du Cap-Vie. Mesdames, Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Qui est l'instigateur de cette idée-là? Tout le monde est d'accord. Ça, mais qui a décidé de prendre la balle et de la rouler vers qui? Comment ça s'est démarré tout ça? Et si je me fie à mes téléphones, Sarah, tout le monde m'a dit « Ah, pose la question à Sarah. » Alors.
Bon. l'idée de réunir le communautaire autour de cette question-là, j'ai remis dans l'idée de Mémo Québec, avant mon arrivée même à Mémo Québec, compte tenu que c'est un dossier dont plusieurs organismes communautaires à travers le Québec s'intéressent, se préoccupent, font des actions et des initiatives. Mémo Québec, j'ai eu envie de réunir des partenaires du communautaire pour les personnes handicapées autour d'une même table, puis en jaser de façon concertée. Donc, c'est comme ça, est-ce que moi, j'ai eu le mandat de contacter des organismes à travers la province du Québec dont le dossier de l'accessibilité était au cœur de leur dossier et de les demander de joindre à moi autour d'une table pour en jaser puis voir comment est-ce qu'ensemble, on pouvait avancer et proposer des actions concrètes dans ce dossier-là.
Et est-ce que la campagne est plus forte à plusieurs? Comme vous disiez, là, chacun faisait déjà des choses de son côté. Est-ce que là, on sent qu'il y a une force qui est démultipliée?
Bien, moi, je ne peux répondre que oui à ça parce que, compte tenu que, on a notre mission propre, oui, on a nos membres et nos actions qui nous sont propres, mais en étant ensemble, ça nous permet de travailler sur une idée commune, d'avancer sur le même discours uni aussi. Parce que si de mon côté, je demande quelque chose, d'un autre côté, on demande d'autres choses, que ça peut rentrer en contradiction, bien, auprès des commerçants et des décideurs, ça a peut-être moins d'impact. Là, on est vraiment une gang qui se dit oui ensemble, on va se décider de comment est-ce qu'on nomme les choses puis qu'est-ce qu'on va faire ensemble.
Puis c'est la première fois ça arrive, c'est une première campagne nationale, non?
Bien, c'est une première campagne nationale. C'est ça qui est beau, c'est qu'on a des représentants d'organismes dans diverses régions administratives du Québec, justement pour que ça soit le plus représentatif du Québec au complet, là.
Simon, comment ça s'est rendu jusqu'à vous dans la capitale nationale?
Ben, premièrement, un beau matin, je suis arrivé devant ma boîte de courriel et j'avais ce merveilleux courriel de Sarah qui m'invitait à participer à la campagne avec eux. Nous, on avait déjà fait des campagnes là, avec notre organisme à Québec. Depuis 2014-2015, à peu près, on était en campagne là. C'est parce que c'est une campagne pour l'accessibilité, c'est une campagne qui ne se résume pas à « on fait quelque chose deux semaines puis on arrête ». Donc, on est en campagne depuis 2015 là-dessus. Puis, quand j'ai vu le courriel de Sarah, ben j'étais emballé parce que, dans le fond, on se retrouvait plus à faire ça tout seul dans notre coin. On était un peu partout au Québec. Puis, il n'y a rien de mieux que partir d'un Montréal accessible puis d'aller d'un Québec accessible, hein?
Florence, est-ce que du côté du mouvement Phase, on s'est dit, bon, avec le thème choisi, soit les commerces et services de proximité, nous, on est, disons, préoccupés par les services de santé, alors ce sera notre dada ou ça va au-delà de ça?
Mais dans le fond, le mouvement Phase, donc Personnes handicapées pour l'accès aux services, c'est une coalition de plusieurs organismes en déficience intellectuelle, déficience physique et troubles du spectre de l'autisme et des groupes de parents. Donc, à la base, rassembler ces groupes-là, ça crée un rapport de force. Donc, de se joindre à la campagne en tant que telle, pour nous, oui, c'était de faire le lien entre l'accessibilité aux services et l'accessibilité physique des lieux et les services de proximité. Donc, l'accessibilité aux services de santé passe par différentes choses, notamment cette accessibilité aux lieux.
Et pourquoi on s'intéresse juste à l'accessibilité pour les personnes qui ont une limitation physique?
Du côté de Mémo Québec, moelle épinière et motricité Québec, évidemment, nos membres, c'est la déficience motrice. Principalement, là, des personnes qui ont une lésion à la moelle épinière. Donc, beaucoup se déplacent en fauteuil, sont paraplégiques ou tétraplégiques, là, donc en fauteuil roulant manuel ou motorisé. Donc, c'est sûr que nous, on avait d'une part une préoccupation pour l'aspect architectural de l'accès au commerce et aux services de proximité, ainsi que matériel, parce qu'on dit que c'est beau de rentrer dans le commerce ou dans chez ton médecin de famille, mais que si le matériel, une fois rentré, il n'est pas adapté à tes besoins, mais tu ne pourras pas recevoir ton service de toute façon. Donc, c'est comme ça que nous, on a commencé par... On est conscient que l'accessibilité va au-delà de la déficience motrice, mais de par notre mission et de par le fait que c'est une première campagne nationale, on s'est dit qu'on allait commencer par ça. On va cheminer là-dedans au cours de la prochaine année. Puis après, si les organismes sont toujours là, s'il y a d'autres besoins, si on a d'autres idées, bien, on verra la chance à ouvrir peut-être sur d'autres sujets.
Est-ce que... Bon, comme Florence le mentionnait, avec le mouvement Phase, on parle de handicap intellectuel également. Donc, on va au-delà de difficultés motrices. Est-ce que c'est aux organismes, disons, de déficience sensorielle à se joindre à vous pour se faire entendre ou comment on a choisi les organismes? Parce que je remarque, puis j'ai peut-être mal vu, là, mais j'ai vu, bon, l'Outaouais était représenté, Québec était représenté. Il n'y a pas personne de l'Abitibi, je pense. Il n'y a personne du Bas-Saint-Laurent. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas approché ces régions-là, parce que les régions ont décliné, faute de temps, de manpower, de...
C'est vrai là, que d'être représentatif de toutes les régions, c'est un défi pour moi. Mémo Québec a des partenaires dans certaines régions. Moi, je ne les connais pas tous encore. Et bien sûr, on visait la déficience motrice également. Et on voulait aussi que ce soit déjà des dossiers au cœur, Donc, pour ne pas créer non plus chez les organismes un nouveau travail, un nouveau dossier. On le sait, les ressources humaines, financières, etc., le temps, ça peut manquer parfois. Donc, on y était avec nos partenaires actuels. pour cette première édition.
Oui. Simon, Florence, pourquoi avez-vous dit oui, mais surtout, pourquoi avez-vous dit oui de façon active? Parce que j'ai parlé à des gens qui sont, des porte-parole de certains organismes qui sont sur dans le communiqué, qui sont d'accord, mais qui disent « on fera pas grand-chose parce qu'on n'est pas capable, mais on est pour la vertu, on est pour l'accessibilité, on voulait mettre notre voix dans cet événement-là, dans cette tentative-là. » Pourquoi vous deux, donc j'entends par là le Cap Vie et le Mouvement FACE, pourquoi avoir dit oui?
Moi, je peux commencer. Dans le fond, on a dit oui parce qu'on est déjà dedans. Oui,
c'est ça, OK. Ça demandait pas plus d'énergie.
Ben, c'est une continuité. C'est pas que ça. Ben, tu sais, dans le fond, c'est pas que ça demande de l'énergie, l'activité. Ça demande du temps, puis ça demande. Tu sais, faut être un peu militant là-dedans, là, aussi. Là. Donc, c'est comme un travail de longue haleine, puis oui, on fait nos chiffres de 8 heures le matin à 4 heures, 5 heures le soir, mais je pense que c'est un domaine, l'activité, qu'on fait à longueur de journée. Ouais. Moi, je suis une personne en fauteuil roulant, puis je veux dire, je vais aller d'un commerce, puis je peux pas rentrer. Ben, je vais pas attendre de rentrer au bureau le matin. Je vais continuer à le faire. Puis c'est la même chose un peu ce que Mémo dit. Puis quand on a eu des communications avec eux autres, on s'enlignait pas mal dans les mêmes choses. Mmh. Nous, on avait déjà 2-3 ans d'expérience avec les commerçants, la ville et tout, pour savoir de quelle manière faire de l'accessibilité. Parce que faire de l'accessibilité, c'est facile à dire, c'est facile, on peut embarquer dans des grandes choses, mais à la base, faut aller voir les commerçants un par un, puis leur en parler, les sensibiliser et tout. Donc, c'est quelque chose qui nous intéressait, puis dans le fond, nous, à Québec, on le faisait, il y a même d'autres organismes à Québec qui le font aussi, mais quand on voit que Montréal emboîte le pas aussi, puis on veut que ça devienne un réflexe pour tout le monde.
Mais je comprends que ce n'est pas une surcharge pour vous, Florence.
Mais nous, au Mouvement FACE, du coup, on est une coalition de groupes qui font déjà de la mobilisation, donc pour l'accès aux services de santé et aux services sociaux. Donc, la mobilisation, ça passe, oui, par la sensibilisation, oui, par l'éducation populaire, oui, par... Donc, quand les groupes nous approchent pour faire partie de d'autres mobilisations, c'est sûr que ça fait plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de groupes qui se mobilisent, puis c'est-à-dire qu'il y en avait aussi avant. Mais donc, au niveau de la mobilisation, ça fait du sens. Puis au niveau de l'accès aux services de santé et services sociaux aussi, ça fait du sens pour le mouvement FACE. Et ça permet aussi, de définir l'accessibilité d'une manière plus large. Donc oui, l'accessibilité physique, architecturale, mais on l'a vu par exemple au CHUM, là, la nouvelle structure qui vient d'être
mise.
C'est décevant. Ouais. Donc on se voit, ça affecte plus que juste au niveau de la motricité, ça affecte d'autres choses aussi. Donc je pense que pour nous, ça fait du sens de faire partie.
Vous êtes des associations, donc vous travaillez déjà beaucoup sur cette sensibilisation-là. Vous pouvez aussi peut-être rayonner auprès d'autres organismes et leur donner des outils. On va voir en deuxième partie, là. On va écouter
On écoute Valière, puis pendant ce temps-là, allez répondre à notre petite question.
Oui. On va voir vos revendications après.
Quand le gazon est vert, je vois tout à l'envers. Les pieds dans le vis, j'en fais pas un supplice tant que j'ai le bon tournevis. Moi je ris comme un fou sous le soleil doux. Je dors dans la clarté des étoiles l'été. Je file dans les jours la guitare à l'envers. Puis je flâne dans un lit en écoutant la pluie. Et le temps passe. Et le temps passe. Ma peine est légère, loin de tous mes travers. Loin de tous mes travers et je sors de l'hiver. Je vis sans artifice, sans but et sans malice, tant que l'air est gratis. Moi je ris comme un fou sous le soleil doux. Je dors dans la clarté
je file dans les jours, la guitare à l'envers. Puis je flâne dans un lit en écoutant la pluie et le temps passe. Je déjoue et des fois je délaisse, et souvent je lousse la laisse. Et le temps passe et des fois me dépasse et me perd dans l'espace. Et des fois
question de la semaine. Comment s'assurer de l'accessibilité des commerces de proximité? Est-ce qu'on devrait les contraindre ou leur offrir des incitatifs financiers?
La chambre de Kim Auger en secondaire 4. Le salon de quai où Marc a joué un 240. Le bureau du VP qui m'a recruté en sortant de l'université. La galerie du premier vernissage de ma sœur.
La clinique où on a succès une fille.
Ça, c'est tous des endroits où j'ai pas pu aller.
Ça frappe, ça. Je veux dire, c'est très bien fait. Un 30 secondes qui dit ce que ça a à dire. Bravo.
Merci.
Qui a pensé au concept? Qui a travaillé ça?
Le dossier de la vidéo, ça a été vraiment travaillé indépendamment de moi quand je suis arrivée à Mémo Québec. Donc, ça a vraiment été fait par Nicolas Messier, okay, qui était l'ancien organisateur communautaire en défense des droits à Mémo Québec. Mais on voulait vraiment illustrer, parce que ça, c'est aussi une vidéo où on voit une personne justement énumérer tous les lieux où, qu'on entend.
Interdit, ouais.
Tout on à les fait. Voit en arrière de lui. Là,
on les voit en arrière et on comprend juste à la fin quand il dit « ça, c'est tous les endroits où j'ai pas pu aller » qui est en fauteuil roulant.
Mm-hmm. Oui, qu'on donc, a un plan
voilà,
reculé.
On voulait vraiment frapper par le côté...
La surprise.
Oui, c'est ça.
Ouais. Sarah Limoges de Mémo Québec, également avec Florence Tifou de... du mouvement Phase et au téléphone Simon April du Cavi à Québec. Je remarque, moi qui aime le sport, qui aime bouger, le loisir, on ne parle pas de terrain de jeu, de piscine, de gymnase, d'aréna. C'est quand même des services de proximité. Est-ce qu'on a une raison particulière? Simon?
Ben, nous, en plus, si je peux me permettre, ouais, nous à Québec, ça se situe beaucoup au niveau de la ville. Donc, cette approche-là, ça ne fait pas de la même façon au niveau des commerçants, des services que de la ville. Donc, on travaille, nous autres, le cabinet, en étroit partenariat avec la ville concernant tous les nouveaux projets de développement là, pour qu'il y ait une portion d'accessibilité, exemple, là, l'ouverture d'une piscine ou l'ouverture d'une patinoire, pour qu'on on se rappelle toujours que la ville ait dans sa tête l'accessibilité en partant.
Ça, c'est en parallèle, finalement, de cette campagne.
Exactement.
Et donc, service de proximité, ça englobe quoi?
Dans le cadre de la campagne, faut savoir que l'architecture, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup, beaucoup de lieux. Donc, compte tenu qu'à Mémo Québec, et qu'on fait de l'intervention individuelle en défense des droits, l'accessibilité architecturale et de matériel des commerces et des services de proximité. Services de proximité, c'est... le médecin de famille, le dentiste, le notaire, tous les services qu'on, en tant que citoyen, on pourrait avoir accès. Donc, on avait beaucoup de plaintes de nos membres et de dénonciations comme quoi qu'il ne pouvait pas y avoir accès de proximité, donc proche de chez eux. Ils devaient se taper, excusez-moi l'expression, mais une heure et demie de transport pour aller à celui qui était accessible, donc de proximité aussi, justement pour dire que c'est pas normal qu'on puisse pas aller au service ou au commerce qui était à côté de chez soi.
Moi qui suis membre du RAPLIC, j'ai reçu un petit courriel où on nous disait à nous et à nos amis, sortez vos téléphones, prenez des photos d'endroits qui pourraient être accessibles comme, disons, exemple à suivre et d'endroits qui ne sont pas accessibles comme exemple à ne pas suivre pour essayer de motiver les gens. Du côté du mouvement FAZ, du côté du CUAPVI, qu'est-ce que vous demandez à vos membres de façon à s'impliquer?
Vas-y, Florence.
Mais nous, présentement, on est en campagne de mobilisation pour l'accès aux services de santé et services sociaux publics pour les personnes en situation de handicap et leurs proches. Donc, c'est une campagne qui s'appelle « Nous sommes et nous voulons » qui se lie aussi avec la campagne pour un Québec accessible. Donc, présentement, c'est sûr qu'on est en mobilisation de mobiliser pour se mobiliser. Donc, il y a des personnes qui ont assisté à leur première manifestation, dire des slogans. Donc, à ce niveau-là, ça, c'est une des étapes, je pense, qui fait partie de mobilisation plus...
citoyenne.
Oui, de mobilisation citoyenne. Et donc, il y a différents... c'est un cycle, là. Ça passe par la sensibilisation, l'information, la mobilisation.
Donc, vous avez quoi? Vous avez pris le corridor ou la rue, puis...
Il y a eu 12 actions qui ont été organisées dans la rue, des rassemblements, des actions théâtrales de revendication... des pièces de théâtre, des slams. Donc, il y en a eu 12. Puis, chaque fois, c'était dans des endroits publics symboliques. Donc, soit devant le ministère de la Santé et des Services sociaux, soit devant le bureau du premier ministre, même aller avec Mémo Québec devant le bureau de comté du ministre Barrette, qui, ça aussi, on pourrait en parler différemment dans les services, là, mais je pense que qui est un service politique qui n'est pas très accessible. Il est accessible, mais difficilement, le bureau de comté.
Les cabinets.
Les
bureaux,
Donc ça aussi, éventuellement, dans la campagne plus large, quand Sarah elle parle de dans un an, deux ans, c'est des objectifs qui seront à atteindre pour vraiment avoir un Québec accessible.
C'est ça. Et parmi les demandes, en fait, parce que là, Sarah, tu nous disais tout à l'heure qu'à plusieurs, ça permet de s'entendre sur les revendications clés. Est-ce qu'il y en a deux ou trois des principales revendications que vous avez en commun?
C'est sûr que la campagne... a comme objectif de sensibiliser le grand public, les décideurs, les commerçants et les propriétaires à l'accessibilité architecturale et de matériel. Donc, ce qui fait la beauté de la campagne, c'est qu'en étant plusieurs, ce qu'on veut, c'est que chacun peut revendiquer selon sa réalité les besoins de son organisation. Mais assurément, par exemple, en travaillant avec un regroupement comme le RECAC, qui travaille sur l'accessibilité des commerces spécifiquement au Québec, on a des revendications plus politiques de mettre en place des politiques et de les faire respecter par des mesures contraignantes, etc. Donc, on part des besoins, des revendications de tous qui est à l'entour de la table pour en faire des communes.
Et si vous répondiez à la question de la semaine, donc est-ce qu'il faut des incitatifs financiers ou des contraintes
On est pour la coercition ou l'incitatif?
C'est ça. Je pense qu'il faut les deux. Je pense qu'il faut...
Je suis d'accord avec toi, Sarah.
Je pense qu'il faut inciter, c'est sûr. Ça prend... On ne peut pas non plus dire, rends ton commerce ou ton service de proximité accessible, puis je te donne rien, puis je t'aide pas. Non, ça se fait pas comme ça. Mais une fois qu'il y a des mesures en place pour les aider, que c'est encadré, que il y a des facilitateurs, puis qu'il n'y a plus de raison de ne plus le faire, là, il doit y avoir des mesures contraignantes pour faire c'est ça.
Oui, puis actuellement, les mesures contraignantes ne sont pas assez contraignantes. Donc, le fait d'avoir un facilitateur en plus, ça pourrait être peut-être plus motivant que dire la contrainte, de toute manière, la punition de ne pas, de pas rendre ça adapté ou accessible. Elle n'est pas assez forte, donc...
Elle vaut pas la peine. Oui.
Mais il y a aussi, faut se remémorer ce qui s'est passé en France depuis 2005. Ils ont fait ça, des mesures coercitives concernant le manque d'activité dans les commerces. Puis tout ce que ça a donné, dans le fond, c'est un report de la loi. Puis ça fait... c'était prévu pour 2015, puis maintenant, ils ont reporté ça à 2025. Donc, des fois, ces mesures-là sont pas nécessairement... incitative. C'est plutôt le fait de bien outiller les commerçants, bien outiller les gens qui en ont besoin. C'est quoi les programmes pour le faire? C'est quoi les avantages de le faire aussi?
Mais ça, c'est intéressant, Simon, parce que Et zut, le temps file, mais il y avait un mouvement citoyen qui avait commencé Québec Accessible, une page Facebook, puis on espérait il y a quelques années. Puis l'idée était, est-ce qu'on veut une loi cadre? Toi, tu es en train de dire que c'est pas nécessairement la solution, qu'on doit continuer commerce par commerce? Ou...
Ben, je dis pas que c'est pas la solution. Je pense que ça prend ça pour avancer les choses. Le gouvernement Trudeau, l'année dernière, est en consultation publique qu'on a participé concernant la loi sur l'accessibilité des personnes handicapées. Sauf que je pense que c'est pas juste ça. Parce que, dans le fond, faut aller plus loin. Des fois, regarde, je vais vous donner un exemple. On va voir un commerçant, puis on lui parle. Il y a des commerçants qui, excusez-moi, mais c'est pas dans leur priorité. Ils veulent faire rouler leur commerce, puis juste ça, c'est correct. Mais d'autres, comme ils nous disaient, « Ah, moi, mon frère est en fauteuil roulant, fait que je trouve ça important, et de quelle manière je devrais faire. » Fait que des fois, là, on peut tomber sur une bonne personne, puis ça peut faire la différence.
Simon April, Sarah Limoges, Florence...
Tifou.
Merci beaucoup d'avoir été là.
Merci. Je le rappelle, il y a quand même un site internet pour unquebecaccessible.com où il y a plein d'outils à aller chercher.
Il va être en constante évolution. Restez au courant par ce site-là. Toutes les organisations vont pouvoir y mettre leur action.
Et on va vous suivre.
On peut vous aider aussi.
On a une rencontre le 2 samedi ici pour l'accessibilité à Québec en avant de l'église du Parvis Saint-Roch.
C'est à ça que ça sert les églises maintenant. Après la pause, on parle téléphone cellulaire. À tout de suite.
Merci.
Vous écoutez Accès libre.
Jean-Sébastien Larigi nous demandait est-ce qu'on rediffuse la question. Je disais non, je pense que les gens le savent maintenant. Est-ce qu'on veut de la coercition ou des incitatifs? Qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter l'accessibilité au Québec? Avec nous, Vincent François, que je suis très content de retrouver, lui qui est expert en accessibilité numérique, fondateur de Consultation Boréale. C'est joli comme nom, Vincent. Rebonjour. Ça fait longtemps que toi et moi, on s'est croisés.
Ben oui, effectivement. C'était l'été. On buvait, je crois. En tout cas, c'est ce qu'on faisait croire aux auditeurs.
Oui, il y avait du mojito. Il y avait... Oui, non, c'était le bon vieux temps. Anne-Laure, oui? Toi, ton téléphone cellulaire, est-ce que parfois tu utilises certains ajouts qui sont là pour l'accessibilité parce que ça te sert à quelque chose? Je pense surtout à VoiceOver ou à Siri que tu peux peut-être...
Non, j'avoue, moi, c'est très limité comme
Beaucoup
utilisation.
Beaucoup de voyants n'utilisent pas Siri. C'est...
J'en connais.
OK. Ouais. OK.
Mais c'est vrai, là, moi, j'étais au téléphone avec la directrice du RAFO, regroupement donc en Outaouais pour les personnes en situation de handicap.
Malik Baudouin.
Oui, ouais. Puis elle me disait, mais l'accessibilité des téléphones cellulaires, c'est vraiment infernal. Donc, on vous a invité, Vincent, on voulait en savoir un peu plus. Qu'en est-il aujourd'hui?
Alors, effectivement, il y a toujours des problèmes, mais on a fait des énormes progrès depuis le début des téléphones cellulaires. Il faut vous dire que c'est à peu près 10 ans qu'on a des téléphones dans nos mains. Et ouais. Que c'est un outil extrêmement utile à bien des égards, qui est très polyvalent, qui est assez ergonomique finalement, qui est disponible en tout temps. Surtout quand on le compare dans ses fonctionnalités à un ordinateur où il fallait aller s'asseoir devant un bureau, éventuellement le démarrer. Il y a des combinaisons de touches, il y a la manipulation de la souris, il y a des logiques aussi qui n'étaient pas nécessairement celles de toute la population. Et c'est des petits écrans, donc on s'est pas mal simplifié aussi les interfaces. Donc, comme il est très présent dans nos vies, forcément... Quand ça marche pas très bien, eh ben ça nous gêne. Hein. C'est-à-dire que donc ça amplifie le problème. Mais faut voir aussi que cette amplification vient du problème parce qu'on les utilise beaucoup. Ouais. Mais dans le passé, il faut voir que les premiers téléphones intelligents ou plus ou moins intelligents, comme on disait, qui étaient destinés aux personnes en situation de handicap, étaient surtout faits pour eux. C'est-à-dire que là aujourd'hui, on est dans des outils qui sont plus généralistes. Et sur lesquels se greffent des applications, se greffent des modes de fonctionnement, des fonctionnalités, et qui vont rétablir, qui vont réassurer l'accessibilité de ces outils-là. Donc on a moins d'outils qui sont dédiés à ça et d'applications particulières. On a des outils plus généralistes. Et cette généralisation va au-delà. Quand on voit le téléphone comme une prolongation de l'ordinateur, bon, ben, y a tout ce que je viens de dire juste avant, mais ça devient aussi des outils qui permettent à des personnes handicapées de sortir de chez elles, de se faire accompagner. C'est aussi une carte mobile, c'est aussi un GPS dans la poche, c'est aussi la possibilité d'avoir des descriptions de différents lieux géographiques au moment où on les aborde.
Principalement pour les personnes, excusez-moi, qui ont des limitations... sensoriel,
oui, exactement. Visuel. Oui. Donc, il y a tous ces avantages-là qui viennent dans nos petits outils. Et puis, ils viennent aussi eux-mêmes avec tout un tas de fonctionnalités. Par exemple, pour les limitations visuelles, on a la possibilité d'agrandir les caractères, d'agrandir les zones de l'écran. Il y a la synthèse vocale qui vient maintenant de plus en plus avec ces appareils-là. Il y a aussi des outils de commande vocale.
Oui, tout à fait.
Le micro également.
Pardon ?
On peut scanner.
Alors, on peut scanner, c'est-à-dire qu'on peut lire un document à travers son appareil vidéo, puisque ça devient des caméras vidéo. À ce moment-là, un logiciel de reconnaissance de caractères va se charger de lire les caractères dans ce qu'on viendra lire, et puis va les reprononcer à voix haute pour un utilisateur qui aurait des difficultés de lecture. Entre les deux, on peut loger un logiciel de traduction aussi. Ouais. Donc, on peut passer son téléphone sur un texte dans une langue qu'on ne connaît pas et en avoir une traduction automatique en même temps, ce qui fait qu'on a tout un tas de fonctionnalités comme ça qui sont très importantes.
Et qu'est-ce qui reste à faire, par contre, parce que
ce qui reste à faire, c'est comme tout, c'est comme avoir une bonne loi pour éradiquer un certain comportement. Bon, ben quelquefois, il faut la faire appliquer la loi. Donc, on a des outils qui sont meilleurs qu'avant. On a des façons de faire de programmation pour l'accessibilité qui sont de plus en plus faciles, mais entre les deux, il y a des humains qui ont des intérêts économiques, qui ont des incompréhensions du problème, qui ont d'autres choses à faire dans leur journée que s'intéresser à l'accessibilité. Et puis parfois, on n'a pas nécessairement la coercition, parce que c'était le sujet d'avant, nécessaire pour donner le coup de bâton qui viendrait avec la carotte pour avancer. Donc c'est ça. Actuellement, les principaux blocages sont ça.
Mais tu voudrais voir quoi dans le téléphone ? Qu'est-ce que tu voudrais voir modifié pour qu'il devienne encore plus accessible ?
Quoi, les obstacles encore aujourd'hui ?
Pour moi, les obstacles, c'est surtout le fait que les programmeurs, les concepteurs et les gens qui les payent se soucient pas nécessairement nativement du problème d'accessibilité. Pour moi, c'est vraiment ça sur lequel il y a les gains les plus faciles à faire. Après, la technologie, à la limite, je suis pas nécessairement le mieux placé pour imaginer ce que pourrait donner la technologie, parce que moi-même, j'ai un téléphone, je m'en sers quotidiennement, mais si je l'avais pas, j'arriverais à passer ma journée autrement. Ça me limite pas de pas avoir mon téléphone.
Vous n'êtes pas un millénium.
Je suis pas un millénium, j'ai mis du temps à en avoir un, j'ai même résisté longtemps parce que je travaillais énormément et mon ordinateur portable m'occupait déjà beaucoup l'esprit. Je me suis dit, avec ça, c'est la mort.
Mais quand même, là, on parle d'accessibilité, mais c'est surtout pour les personnes ayant une déficience visuelle. Pour les personnes qui ont une limitation physique, c'est accessible.
Pour les limitations, c'est-à-dire que les problèmes ne sont évidemment pas les mêmes. Pour les limitations motrices, on a des fonctionnalités qui vont aider, par exemple, les personnes qui ont des difficultés à tapoter sur leur écran. La possibilité, par exemple, d'attendre que l'appui soit plus long pour considérer qu'on a appuyé, ou l'inverse. On peut avoir des situations de pilotage par le regard. Donc ça commence à être un petit peu plus... Mais j'ai vu des démonstrations impressionnantes. On n'est plus dans des systèmes compliqués avec trois caméras qui regardent le visage ou qui regardent la pupille de l'œil et puis qui regardent qui reflètent un rayon. On a des outils. Et avec un téléphone cellulaire, je l'ai vu, moi, il y a un an ou deux en Californie, on se met devant le téléphone, on bouge la tête et à ce moment-là, il y a un pointeur sur l'écran qui va aller se déplacer. Et donc ensuite, en clignant des yeux, en faisant un petit mouvement de mâchoire, il y a des choses comme ça. Ça, c'est quand le téléphone nous regarde. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il a une captation, il est capable de modéliser notre regard, notre visage, et de décider dans quel angle il fait. Il y a aussi des petits équipements qu'on met qui ne sont pas plus gros qu'un petit appareil auditif qu'on colle à l'oreille, et qui vont lire les mouvements des muscles de la joue, et vraiment des points d'attache vers l'oreille, s'il y en a, parce que je ne sais pas très bien comment c'est fait en dessous. Et donc, suivant les mouvements infimes de visage à cet endroit-là, il va être capable de détecter ce qu'on fait avec le reste du visage. Et donc, d'en tirer des conséquences. Et puis, il y a aussi le suivi des yeux qui se fait encore, et qui permet aussi de pointer. Donc ça, on a ces possibilités-là qui sont plus que des prototypes, mais qui ne sont pas encore tout à fait nativement dans tous les appareils.
Est-ce qu'il y a des bons élèves parmi les opérateurs, enfin les fabricants ou les...
Alors, ça a pas mal fusionné. C'est-à-dire que, par exemple, quand on regarde le lecteur d'écran, donc le lecteur qui lit à voix haute le contenu de notre écran, VoiceOver, qui marche sur les machines iOS de Apple, était loin devant pendant longtemps. Et puis maintenant, chez Android, ils ont un outil qui s'appelle TalkBack, qui fait le même travail avec des logiques légèrement différentes, et qui donc permet de savoir où on en est quand on ne voit pas l'écran, et qui aujourd'hui atteint des résultats très très... en tout cas, pour moi qui ne fais que tester ces équipements, je le trouve très satisfaisant. Je n'ai pas à l'utiliser au quotidien, donc je n'en connais pas les irritants particuliers. Mais tout ça converge vraiment vers le mieux.
D'accord. Intéressant. Bientôt, on va avoir une puce, de toute façon, programmée, reliée à notre cerveau, puis on va pouvoir tout faire. C'est impressionnant les progrès qui sont faits.
Est-ce que vous, au niveau des industries, quand ceux qui regardent l'accessibilité, est-ce qu'on pense qu'il est préférable d'avoir justement des compagnies qui travaillent sur un marché large comme les Apple de ce monde, ou on préférait l'époque où on avait des compagnies spécialisées qui vraiment s'attardaient et comprenaient le problème, mais avec moins de financement derrière?
Voilà, c'est ça le danger. C'est que quand Microsoft ou Apple, pour citer que ces deux-là, s'intéressent à l'accessibilité, on sait qu'ils sont capables de mobiliser des moyens, des équipes, des compétences, et qu'en plus, les résultats qu'ils vont obtenir vont se retrouver multipliés dans tous leurs produits qui inondent le marché depuis des décennies. Donc ça, c'est très important que ces gros joueurs agissent, et ils agissent d'ailleurs.
Moi, je trouve ça fabuleux parce que, j'ai un JAWS qui est une revue d'écran sur mon ordi, et souvent, je vais ailleurs, puis les gens disent « Bon, tu veux utiliser mon ordi? » Puis je leur dis « Je peux pas. » Mais je peux aller chez une amie prendre son iPad.
Voilà.
Et c'est comme « Ben ouais, c'est fabuleux.
» Alors, là, on est dans deux cas différents. Jazz est un logiciel payant qui marche que sur Windows. Sur iPhone, on trouve un VoiceOver qui est gratuit, en tout cas qui fait partie du prix de la machine. Donc, du coup, il y a une disponibilité. Si on a cet appareil-là, alors on l'a nativement. Mais c'est vrai qu'un des progrès du téléphone par rapport à l'ordinateur, c'est cette disponibilité de l'outil et c'est de plus en plus facile d'en attraper.
D'ailleurs, vous nous disiez que dans certains pays, les iPads sont remboursés.
Ça commence. Alors, j'ai lu ça sans avoir de référence très, très proche, mais c'est vrai que ce conflit entre l'équipement qui est fait pour une personne aveugle qui se déplace et un téléphone bien configuré avec quelqu'un qui sait s'en servir, ben ça fusionne les deux. Donc on revient à cette question de savoir est-ce que c'est des produits niches avec des gens qui comprennent bien les problèmes, qui sont bien dans la communauté des personnes qui vont les utiliser, ou est-ce qu'il faut prendre des produits plus généraux qui vont être avec tout ce que ça veut dire de puissance économique et marketing derrière. Je suis bien incapable de trancher le débat, mais j'ai quand même l'impression qu'on va vers cette deuxième solution que les petits, entre guillemets, joueurs ont intérêt à tisser des partenariats ou à se faire acheter si c'est leur
choix. On achète les brevets. Puis
éventuellement, mais en tout cas, ne pas mourir de par la taille, mais survivre de par l'originalité et, le côté pointu de leur expertise.
Merci Vincent-François.
Merci.
Bienvenue.
Alors, est-ce qu'on lit les commentaires ou on écoute la lecture d'abord? C'est ton show, hein?
Mais oui, c'est vrai, c'est mon show. Écoute, moi j'ai pièce musicale d'abord, petite chanson.
Unforgettable, that's what you are. Unforgettable, though near or far, like a son of love that clings to me, how the thought of you does things to me, never before. Has someone been more unforgettable in every way? Oh, and forevermore, that's how you'll stay. That's why, darling, it's incredible that someone so unforgettable thinks that I am unforgettable too.
Nous arrivons donc à la fin, presque à la fin de l'émission, puisque c'est le moment de vous faire découvrir un essai disponible en version audio, édité par Vues et Voix. Et cette semaine, nous vous invitons à écouter deux extraits audio du livre « Sur les chemins noirs » de Sylvain Tesson, publié en 2016 aux éditions Gallimard. Tout de suite, la quatrième de couverture.
Il m'aura fallu courir le monde entier et tomber d'un toit pour saisir que je disposais là, sous mes yeux, dans un pays si proche dont j'ignorais les replis, d'un réseau de chemins campagnards ouverts sur le mystère, baigné de pur silence, miraculeusement vide. La vie me laissait une chance. Il était donc grand temps de traverser la France à pied sur mes chemins noirs. Là, personne ne vous indique ni comment vous tenir, ni quoi penser, ni même la direction à prendre. Sylvain Tesson. Sylvain Tesson a publié aux éditions Gallimard « Une vie à coucher dehors », Goncourt de la Nouvelle 2009, « Dans les forêts de Sibérie », prix Médicis, essai 2011, et « S'abandonner à vivre ».
Alors, comme vous le savez, si vous présentez une déficience visuelle ou une limitation qui vous empêche de lire un livre imprimé, vous pouvez en profiter grâce donc au service québécois du livre adapté par l'entremise de BANQ. Voici maintenant un extrait de l'avant-propos de « Sur les chemins noirs » de Sylvain Tesson.
L'année avait été rude. Longtemps, les dieux avaient favorisé la famille, nous avaient baignés de leur douceur. Peut-être se penchent-ils sur certains d'entre nous, comme des fées, des contes. Puis leur sourire se crispe en grimace. Nous ne savions rien de ces choses, mais nous goûtions cette amabilité du sort avec une désinvolture énergique. Elle nous affranchissait de la moindre gratitude, mais nous contraignait à une épuisante légèreté. La vie ressemblait à un tableau de Bonnard. Il y avait du soleil sur les vestes blanches, des compotiers sur les nappes, des fenêtres ouvertes sur un verger où passaient des enfants. Dehors, les pommiers bruissaient, le décor idéal pour un bon coup de massue. Cela n'avait pas tardé. Mes sœurs, mes neveux, tout le monde avait été atteint de l'un de ces maux qui s'infiltrent par les remparts dans les fables médiévales. Une ombre rampe dans les ruelles, atteint le cœur de la ville, gagne le donjon. La peste avançait. Ma mère était morte comme elle avait vécu, faisant faux bond. Et moi, pris de boisson, je m'étais cassé la gueule d'un toit où je faisais le pitre. J'étais tombé du rebord de la nuit, m'étais écrasé sur la terre. Il avait suffi de 8 mètres pour me briser les côtes, les vertèbres, le crâne. J'étais tombé sur un tas d'os. Je regretterai longtemps cette chute parce que je disposais jusqu'alors d'une machine physique qui m'autorisait à vivre en surchauffe. Pour moi, une noble existence ressemblait aux écrans de contrôle des camions sibériens. Tous les voyants d'alerte sont au rouge, mais la machine taille sa route. Et le moindre Cassandre, à gueule d'idiot qui agite les bras en travers de la piste pour annoncer la catastrophe, est écrasé menu. La grande santé, elle menait au désastre. J'avais pris 50 ans en 8 mètres. On m'avait ramassé. J'étais revenu à la vie. Mort, je n'aurais même pas eu la grâce de voir ma mère au ciel. 100 milliards d'êtres humains sont nés sur cette terre depuis que les Homo sapiens sont devenus ce que nous sommes. Croit-on vraiment qu'on retrouve un proche dans la cohue d'une termitière éternelle encombrée d'angelots ? À l'hôpital, tout m'avait souri. Le système de santé français a ceci de merveilleux qu'il ne vous place jamais devant vos responsabilités. Dans une société antique régie par un principe d'éthique, on ne devrait pas s'occuper d'un soulographe avec les mêmes égards que ceux dispensés aux vrais nécessiteux. On ne m'avait rien reproché, on m'avait sauvé. La médecine de fine pointe, la sollicitude des infirmières, l'amour de mes proches, la lecture de Villon le Punk, tout cela m'avait soigné. Il y avait surtout eu la sainteté d'un être venu chaque jour à mon chevet, comme si les hommes de mon espèce méritaient des fidélités de bêtes. Un arbre par la fenêtre m'avait insufflé sa joie vibrante. 4 mois plus tard, j'étais dehors, bancal, le corps en peine, avec le sang d'un autre dans les veines, le crâne enfoncé, le ventre paralysé, les poumons cicatrisés, la colonne cloutée de vis et le visage difforme. La vie allait moins swinguer. Il fallait à présent me montrer fidèle au serment de mes nuits de pitié, corseté dans un lit. Je m'étais dit à voix presque haute, si je m'en sors, je traverse la France à pied.
See
Peter sur Canal M. Madame Janson, on a eu des commentaires.
Oui, nous avons eu des commentaires.
Peut-être qu'on veut écouter question. La question avant pour savoir qu'est-ce que... Non,
mais okay, je vais vous la lire, moi, la question. Bah, je vais vous la dire, je veux dire. Comment s'assurer de l'accessibilité des commerces de proximité? Et est-ce que l'on devrait les contraindre ou leur offrir des incitatifs financiers? Donc, Francis Moreno a répondu sur Facebook, ni l'un ni l'autre. Il faudrait montrer que l'accessibilité est une répercussion économique à chacun de ces établissements. Ils sont en business, alors ils verront les bénéfices que rapporte l'accessibilité.
Francis, je vous félicite pour une chose, d'aller à contre-courant. C'est vraiment pas un discours qui est répandu dans le milieu de la limitation fonctionnelle.
Martin-Pierre Pernica, répond « Oui, mobilité est une chose, mais accessibilité aux produits dans les magasins est définitivement aussi un problème.
Ouais. »
Et Villepa, un ancien candidat d'Option Capitale Nationale, écrit « Remboursement des travaux de la première année et 1% de moins sur les taxes commerciales les années suivantes, tout le temps que le bâtiment demeure accessible. C'est ce que nous proposons à Option Capitale Nationale. » Ça prend un bonbon, malheureusement, pour que les commerces le fassent. Sinon, ils vont tout faire pour ne pas le faire. Et...
Non, effectivement, de toute façon, il faudrait travailler sur un terrain égal. Si tous étaient obligés d'investir dans la réfection de leur édifice, là, ce serait égal. Mais que certains le fassent et d'autres ne le fassent pas, ça rend les choses inégales. C'est un peu le débat Uber et les chauffeurs de taxi. Jean-Sébastien Laliberté à la mise en ondes, Christiane Campagnan au web, M. Rasset, Benoît qui est à la recherche et à la réalisation, Anne-Laure et moi, on a fait un peu de recherche et on a un peu animé aussi. Est-ce qu'on a fait le tour de l'équipe?
Ben oui.
OK.
Ben oui.
Ben, on se parle lundi prochain, gênez-vous pas. Passez une bonne semaine.
Bonne semaine.